peut, on va monter un petit peu le son.
Un peu plus fort.
C'est la fin de l'année, je ne peux plus prier.
Allez-y là.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui,
c'est bon. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, on peut effectivement faire l'obscurité. On va passer la première dia, s'il vous plaît. Alors, on termine ce rendez-vous 2008 consacré donc à ce 16e siècle oscillant entre classicisme et maniérisme, même si pendant ces séances, j'ai essayé davantage d'aborder la notion de la maniera sur plusieurs régions. On a pu voir déjà la semaine passée que sur des parties de l'Europe gagnées à la réforme, eh bien, cette maniera prenait un peu des envolées un peu luministes. On a vu ça chez Alderfer et un peu surréaliste. Alors, il me restait à... J'étais un peu désolée, hein, vous l'avez vu la semaine dernière, de ne pas pouvoir traiter dans son ensemble le travail des deux grands protagonistes de cette renaissance du monde du Nord. J'aimerais, s'il est possible, cet après-midi, revenir quand même un court moment sur le second protagoniste, mais en attendant, un coup d'œil sur une dernière région qui a été contaminée par les grandes directions de la grande orientation, pardon, de la peinture florentine, celle de Rosso Fiorentino. Évidemment, avec notre fâcheuse habitude de franciser tous les noms des artistes, nous l'avons baptisé en France le Rosso, donc un peintre florentin, un peintre de Bologne également, Francesco Primaticcio, le Primatis, qui vont diriger à partir des années 1530 un atelier en France. Un atelier où le répertoire ornemental qu'ils vont mettre en place emprunte évidemment beaucoup au maniérisme des peintures de ces villes d'Italie que nous avons étudiées cette année, empruntant également des thèmes allégoriques et puis la préciosité de certains sujets. Qui va peut-être au-delà même de ce maniérisme que nous avons pu étudier cette année et qui constitue le point de départ d'un style donc français peut-être plus raffiné que de l'histoire hein, de la tradition française, de par l'histoire de la tradition française, peut-être plus raffiné que ce que nous avons vu jusqu'à présent, en tout cas à la suite ce que j'appelle raffinement, hein, de l'hyper-réalisme, par exemple, d'un Bronzino, hein, je ferai un parallèle tout à l'heure. Et donc, cet ensemble d'artistes, essentiellement italiens, mais aussi français et flamands, qui ont gravité autour de la personnalité de François Ier, dans un espace premier, qui est l'espace de Fontainebleau, l'histoire de l'art lui a donné un nom, bon, il faut bien donner des noms, hein, donc lui a donné le nom d'école de Fontainebleau. Alors, moi, ma difficulté, je ne vous l'ai pas caché hein, ces derniers temps, ma difficulté était de pouvoir réunir ma collection d'images prêtées, dispersées aux quatre vents des étudiants et des enseignants, qui, chaque année passant, sont de moins en moins fiables. Et donc, je n'ai pas l'ensemble des images que j'aurais voulu vous présenter cet après-midi. Alors, je vais, malgré tout, essayer de vous montrer, avec les images hein, que j'ai pu avoir pour aujourd'hui, ce qui fait un peu l'originalité à travers cette notion de raffinement, de préciosité du maniérisme français. Mais je m'attacherai surtout à la personnalité, je dirais, des suiveurs de Rousseau et du Primatis, qui ont travaillé, eux, exclusivement dans le château de Fontainebleau, et dont il me manque les images. Et je m'attacherai davantage à vous montrer des œuvres d'artistes qui sont leurs suiveurs et qui ont gravité dans le dernier tiers du XVIe siècle. Je pense à Clouet, à Toussaint Dubreuil, à Caron, Antoine Caron, à Niccolo della Batte et encore bien d'autres. Voilà, alors derrière cette école de Fontainebleau, c'est pour ça que j'ai ramené quelques images d'architecture, il y a effectivement le rêve, je dirais, un rêve italien de la part de nos monarques au XVIe siècle, un rêve italien qui va avorter assez rapidement, je pense à Louis XII, je pense aussi à Charles VIII, même si les Français vont pouvoir s'imposer à Milan pendant une dizaine d'années, mais enfin, très très vite, tous ces rêves comme ça d'extension vont s'atténuer et s'amenuiser. Et finalement, ce rêve italien sera peut-être transposé par le biais de l'art dans les châteaux du Val-de-Loire. L'idée n'est pas aujourd'hui de faire un cours sur les constructions des châteaux de la Loire, mais quand même, je voulais montrer dans quel contexte va s'épanouir. Oula, c'est un contexte très sombre, mais donc je vais aller un petit peu plus vite. Dans quel contexte va s'épanouir la peinture française. Je pense notamment à la statue équestre de Louis XII à Blois, qui a été réalisée par un artiste qui provient de Naples, où Charles VIII tentait de faire copier toute une série comme ça d'éléments de la Renaissance repris à l'Antiquité, notamment toute une série de statues équestres. Et peut-être la formule la plus originale pour la France, c'est probablement cette statue équestre de Louis XII pour le château de Blois. Aussi n'est-il pas étonnant que le duc d'Angoulême, qui deviendra le roi de France sous le nom de François Ier, après la mort de son beau-père, Louis XII, en 1515, soit lui aussi préoccupé par la question de l'Italie. Évidemment, il y a la victoire remportée à Marignan, la même année, qui va permettre pendant un certain temps aux Français de refaire main basse sur le Milanais, et surtout d'établir un statu quo entre les prétentions françaises et celles des Habsbourg, défendu, vous le savez, par le roi d'Espagne, Charles, qui n'est pas encore, à ce moment-là, qui n'est pas encore devenu Charles Quint. La puissance et la réputation de François Ier sont telles qu'elles l'autorisent plutôt à prétendre à ce moment-là de son histoire, à la couronne du Saint-Empire romain germanique qui va être disponible à la mort de Maximilien Ier, c'est-à-dire à partir de 1519. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une espèce de traduction artistique, architecturale dans un premier temps, de ce désir de puissance et cette volonté de réputation, puisque c'est cette année-là que François Ier fera rajouter à côté du logis de Louis XII à Blois, pour affirmer son prestige, pour affirmer son autorité internationale, après Marignan, va faire rajouter un corps de bâtiment qui est entièrement, comme vous le voyez sur cette image, organisé autour de cet escalier à vis monumental. Et si le principe de l'escalier à vis, comme ça, en saillie, est l'héritage, évidemment, un héritage classique, je veux dire traditionnel, celle des demeures citadines gothiques. On a à Lyon, dans le quartier Saint-Jean, toute une série d'escaliers à vis, comme ça, un peu protubérantes, qui dominent la silhouette de la ville du XVe siècle. N'empêche que, regardant attentivement le décor de cet escalier, on se rend compte que cette façade, comporte déjà tout un répertoire de bas-reliefs. On le voit sur la balustre ici, notamment tout un répertoire de bas-reliefs de type médaillon, rinceaux de feuillage, piliers et corniches qui sont déjà, pour la première fois, pratiquement, tributaires de l'Italie et de l'Antiquité, derrière l'Italie, bien sûr, bien avant eh bien, les grandes inventions de Philibert de Lorme à Lyon, dans un premier temps, mais également au château d'Anet. L'influence italienne chez François, dans ce premier temps du mécénat de François Ier, transparaît encore plus sur cette autre façade de Blois, côté ville, avec, vous le voyez, toute une série d'arcades superposées, ouvertes sur l'extérieur, affirmant le caractère de résidence et non plus seulement de forteresse, qui était la prétention du premier édifice. Et même si la forme des arcs est différente d'un arc, un véritable arc en plein cintre, relecture de la Renaissance, relecture de l'Antiquité, même si ces arcs, vous le voyez, sont en anse de panier, eh bien, le principe de régularité de la loggia se réfère tout à fait clairement à une œuvre qui a largement marqué les visiteurs de Rome au début du XVIe siècle, à la fois par sa clarté de composition, hein, de son articulation architecturale, son caractère aussi imposant, et donc cette illustration de l'esthétique classique inspirée de l'Antiquité romaine antique. Je n'ai pas rapporté ce bâtiment, la photo de ce bâtiment, mais vous avez tous en tête les fameuses loges du Vatican que vient de faire construire, enfin que Jules II a ordonné, dont Jules II a ordonné la construction à l'architecte Bramante dans la première décennie du XVIe siècle. Donc finalement, il n'y a qu'une décennie de différence entre les loges du Vatican, avec un programme évidemment beaucoup plus ample que celui que vous avez devant les yeux, et puis cette façade côté ville pour cette architecture de Blois. L'auteur du projet de ces loges de Blois est Girolamo della Robbia, qui est un architecte et appartenant à la grande famille de céramistes florentins que vous connaissez, la famille della Robbia, qui est arrivé donc dans les années 1517-1518 à la cour de François Ier et qui a travaillé également sur la réalisation d'autres loggia de ce type pour d'autres bâtiments de François Ier. On a mis aussi en relation la réalisation de ce bâtiment avec des dessins, des projets que Léonard de Vinci, qui est arrivé lui aussi en 1517 auprès du roi de France, avait donné donc pour la réalisation de certains palais, mais ce n'est pas celui de Blois, c'est notamment le projet d'un palais à construire à Romorantin. Et Léonard n'a pas été appelé en tant qu'architecte, mais en tant en qualité d'ingénieur hydraulicien, avec comme fonction également un travail sur des décors et des costumes de fête. Alors, c'est un petit peu dans cet environnement-là que naîtra, si vous voulez, qu'arriveront d'autres artistes italiens, mais je voulais donner les noms et donner les premières réalisations qui sont en fait des réalisations donc architecturales. Si Blois est une résidence, voici une photo de la terrasse de Chambord, ou plutôt je dirais une semi-résidence, parce que la cour de François Ier à l'origine est encore itinérante, et donc la cour passe de demeure en demeure. Chambord, dont le début de la construction remonte également à 1519, c'est une sorte de château idéal, monument propice à la fois à la promenade, à la chasse, à la fête, pas forcément commode à habiter. Hein. Donc on a encore là un bâtiment qui est encore un bâtiment vécu comme un bâtiment transitoire. C'est d'abord, je dirais, un pavillon de chasse, donc lié à cette culture traditionnelle, mais on voit aussi arriver à la construction de ce bâtiment toute une série d'Italiens qui d'ailleurs avaient déjà travaillé pour Charles VIII et qui ont donné comme ça des projets qui rendent Chambord d'ailleurs assez anachronique. On le voit bien sur cette photo où on a à la fois la verticalité encore d'un gothique finissant avec des éléments d'ornementation qui sont des éléments d'ornementation là encore de la Renaissance et de l'Antiquité. Là encore, ce bâtiment de Chambord, conçu encore dans un esprit médiéval, mais avec des temps d'architecture, déjà d'architecture Renaissance. Je vous montre comme ça quelques éléments, et notamment le plan centré de l'escalier qui se développe sur plusieurs pans et qui est aussi intéressant. Alors je vais en arriver maintenant à la question de la peinture et de la commande. Ce portrait que vous avez tous en tête, c'est bien sûr le portrait... Est-ce que c'est net? Oui. Et là? C'est bon? Oui. Donc le portrait de François Ier, réalisé par Jean Clouet. Il est bien sûr au Louvre. À ce prince qu'il faut mettre en comparaison avec le texte de Machiavel, l'image que l'on donne du prince, l'image que l'on va donner de François Ier comme chef d'État, en tant que tacticien, en tant que stratège, en tant que diplomate, qui ne doit pas craindre d'employer la ruse, comme nous le rappelle Machiavel, pour assurer la sécurité et l'unité de son territoire, qui sont les moyens de garantir, bien sûr, la prospérité. Tout ce programme de tactique et de stratégie que l'on trouve dans la littérature à ce moment-là et que l'on va retrouver dans l'image, ça a été mis en place évidemment par le maniérisme florentin, mais on retrouve cette même idée sur ce portrait avec cette impression de magnificence qui est mise en avant et qui va être érigée au rang de vertu du bon gouvernant. Cette vertu de magnificence comme marque du bon gouvernant qui domine donc ce portrait, avec un roi, n'oublions pas, très chrétien, qui est vraiment bien reconnaissable, avec les traits fidèlement représentés, les yeux, on connaît toute une série de portraits de François Ier, mais les yeux en amande, le long nez, la barbe aussi caractéristique. Je reprends une des chroniques de l'époque qui nous relate que le port de la barbe a été le fruit d'un pari qui a été fait avec Henri VIII, le roi d'Angleterre, où les deux rois avaient convenu de se laisser pousser la barbe jusqu'à leur rencontre, tout ça pour attiser la force du désir de la rencontre. Et François Ier avait donc appliqué par jeu cet engagement, mais qui avait au départ valeur de boutade et qu'il a ensuite conservé avec cette élégance qui le rend tout à fait identifiable dans la série des représentants, enfin des monarques de cette époque. Ce qui domine bien sûr dans ce portrait, c'est ce que mettra en valeur vraiment l'image maniériste, on l'a déjà vu, c'est au-delà de la révélation de la psychologie du personnage, c'est l'attrait social, c'est-à-dire le costume. Le costume dans ce qu'il exprime de la magnificence. Ça veut dire un pourpoint de soie et de velours brocardé d'or qui laisse transparaître par parfois des petits crevés très discrets, bien le raffinement aussi, la finesse comme ça, on le voit ici, on le voit là d'une petite chemise de voile, les manches aussi qui sont démesurément larges, qui semble même ne pas vouloir tenir dans le cadre du portrait. Donc c'est vraiment un petit truc, une petite astuce pour mettre en avant ce vêtement. L'épée également, à manche, vous le voyez, ciselée, hein, sur laquelle se repose la main. Et puis, bien sûr, en avant également, le collier de l'ordre de l'archange Saint-Michel, créé par Louis XI à la fin du XVe siècle, pour concurrencer, bien évidemment, l'autre ordre, celui de la Toison d'or, et qui a donc un rôle d'autant plus politique dans ce portrait que c'est à présent le concurrent de François Ier, Charles Quint, celui qui deviendra finalement empereur, mais au moment où tous les deux prétendent à la couronne, que c'est donc Charles Quint qui, à ce moment-là, arbore l'autre image de l'autre ordre, celui de la Toison d'or. Magnifique également, enfin, excès de magnificence également, le fond de l'image, qui n'est plus un fond uni et sombre, qui caractérise le portrait classique du début du XVIe siècle, mais on voit bien qu'on est déjà, on a déjà basculé dans une image maniériste, où on a là un fond damassé, flamboyant, qui ajoute encore à l'image de splendeur fastueuse qu'il s'agit pour le roi de France d'imposer au monde. Et il y a un petit texte que j'aime beaucoup de l'ambassadeur vénitien Marino Cavalli, qui au même moment où Jean Clouet réalise cette image, décrit le roi de France dans la fameuse relation des ambassades vénitiennes sur les affaires de France au XVIe siècle. Ce sont des textes qu'on a pu, qui ont été republiés à la fin du XIXe siècle, donc on peut trouver assez facilement en bibliothèque, où il nous dit, presque à propos de ce portrait, « Le roi est maintenant âgé de 54 ans, tous ses mouvements sont si nobles, si majestueux, que nul prince ne saurait l'égaler. Il aime s'habiller avec recherche, de vêtements couverts d'or, de broderies et de joyaux, de pourpoints également ornés d'or. Ses chemises sont des plus belles et il les fait bouffer hors du pourpoint. » Et donc c'est intéressant parce que chaque fois qu'on présente les qualités de ce souverain-là, je dirais, de François Ier, hein, par rapport à Charles Quint ou par rapport à Maximilien Ier, par rapport à d'autres souverains, ce sont ces qualités-là qui sont des qualités vues par l'image. En cela, il est extrêmement contemporain, enfin, c'est un grand moderne, c'est l'image, c'est l'impression qui prime. Et donc, le portrait peint n'est plus psychologique, c'est plus la recherche de la réalité psychologique, il est absolument impénétrable. Le regard du roi qui nous toise, qui esquisse peut-être, je ne sais pas, un léger sourire, peut-être conscient de l'autorité qu'il produit, mais qui ne se dévoile pas. En tout cas, il est très difficile de comprendre ce qui est en jeu psychologiquement dans ce portrait. Donc on a là un portrait qui, alors signé évidemment par un grand atelier français qui donnera plusieurs générations de peintres, l'atelier des Clouet, mais qui là me semble révéler l'influence de ce qu'on a pu appeler l'école de Fontainebleau, qui contribue à travers un dessin extrêmement précis à la florentine, pas du tout à la vénitienne, hein. Des détails minutieusement décrits, des effets de matière, un modelé qui, vous le voyez, n'est vraiment pas vénitien, on a un modelé extrêmement faible, hein, par rapport à d'autres types de peintures. Donc on a là un style qui contribue justement à cet effet d'image et qui est, à mon avis, de la même veine que les portraits que je vous ai montrés de la même époque, pratiquement, hein, les années 30, les années 40, les portraits de Bronzino, je pense à celui-ci, je vous ai déjà montré, qui se désintéresse, Éléonore de Tolède, qui se désintéressait également de la psychologie au profit de l'apparence, au profit du côté hyper réaliste de l'image. J'en veux pour preuve le détail. Ce serait un peu la même chose si j'avais zoomé, hein, sur le vêtement de François Ier, on aurait pratiquement le même rendu. Je reviens sur le portrait. Et donc, Je ne l'ai pas fait, hein, je n'ai pas zoomé, mais on aurait vraiment la même qualité. Et donc, si la magnificence de François Ier passe par son apparence personnelle et par ses portraits, je n'en ai retenu qu'un, mais il y en a beaucoup d'autres, portraits peints ou écrits, je fais référence à la relation de l'ambassade vénitienne, la magnificence de ce roi passera aussi, bien sûr, par son mécénat. Et après le retour de captivité, après le sac de Rome, qui est subi quand même comme une défaite, les constructions royales autour de Paris vont redoubler donc d'activité. Tout comme si François Ier voulait transposer sur le terrain des arts la suprématie européenne qu'il revendiquait et que les armes lui ont... ne lui ont pas permis d'acquérir. Et c'est donc par le mécénat littéraire et artistique qu'il imposera son éclat aux yeux de son plus chanceux rival hein, à l'Empire que fut Charles Quint. Alors, je n'ai pas apporté d'image non plus du Louvre, évidemment, de la reconstruction du Louvre comme manifestation de la suspension, si vous voulez, de l'itinérance de la cour royale, le prince de la Renaissance ayant pris la décision d'abattre le gros donjon hein, que vous avez tous en tête au profit de la cour du château du Louvre. Évidemment, tout ça fait partie d'un programme qui est bien destiné à émouvoir à l'extérieur de sa province, d'émouvoir évidemment l'Europe artistique de cette époque. Et donc il en ira de même pour la construction du château de Fontainebleau. Alors je regrette, je ne vous montrerai pas d'image des programmes recomposés de Fontainebleau, mais je voudrais quand même vous montrer des images de ces artistes qui ont circulé donc autour de Fontainebleau et notamment par rapport aux portes d'entrée, cette série d'espaces qui ont pu accueillir, notamment dans le cul-de-four des différentes petites voûtes de ce type, qui ont pu accueillir des œuvres d'art réalisées par des artistes italiens qui, à la suite de Rosso et du Primatis, ont été appelés par François Ier eh bien, à la cour de Fontainebleau. Et je pense notamment, pour orner cette porte d'entrée, eh bien, la commande passée à Benvenuto Cellini, qui est un des héros, vous le savez, du sac de Rome, de la protection du pape pendant le sac de Rome, protection du château Saint-Ange, qui va réaliser eh bien, la fameuse nymphe de Fontainebleau, mais qui intégrera un autre espace et que je vous montrerai par la suite. Je vais vous montrer dans un instant. Alors, pour bien comprendre l'influence vraiment de cette première étape du maniérisme, de ces deux ateliers de Fontainebleau sur les suiveurs français, parce que en fait, c'est ce qui m'intéressait en fait aujourd'hui, je voudrais revenir sur des images, une image ou deux que je vous ai déjà montrées, d'autres que je ne vous ai pas montrées, de ces premiers, tout premiers maniéristes toscans appelés donc à la cour de François Ier. Il s'agit donc du Rosso, et de Rosso, je vous ai déjà montré cette déposition de croix qui est conservée à Volterra, mais où on peut essayer quand même de relire à travers la morphologie maniériste ce qui semble tout à fait nouveau et qu'on va retrouver dans la peinture française, c'est-à-dire un centre de la composition qui est vidé du thème principal. Il y a comme un espace, il y a une partie vide au centre de l'image qui s'organise donc de façon périphérique autour de la croix en une sorte comme ça d'image circulaire qui donne l'idée du mouvement, le mouvement lié au thème bien sûr de la déposition qui suggère bien sûr la résurrection future et la vie éternelle pour le sacrifice. On avait parlé à propos de ce type d'image d'opposition de style entre figure centripète et figure centrifuge, rappelez-vous. Et puis on remarque aussi une propension à l'élongation des corps qui va caractériser l'art du Rousseau, je dirais, depuis ses premiers essais à Rome jusqu'à ses travaux en France, qui ajoute aussi cette élongation comme ça, de manière un peu gothique, qui ajoute au drame qui est en train de se jouer, hein, le Christ qui est meurtri dans sa chair et qui est comme écarté, étiré par le poids de ce corps comme ça tout en suspension. Et donc c'est la douleur du Christ qui, dont fait écho aussi la douleur d'autres corps qui sont comme écartelés, on voit bien celui-là par exemple. Ce qui caractérise également ce type de peinture avec des déformations de l'image classique, c'est l'utilisation également de la lumière qui modèle les figures par des contrastes qui sont des contrastes très violents. Et notamment la figure ici vêtue de rouge au pied de la croix avec un effet comme ça de zigzag. Qui est très expressif, car cet effet reprend les lignes brisées. Alors cette fois-ci, elle les reprend à l'horizontale, mais ça reprend les lignes brisées verticales du pauvre corps mort du Christ. Donc il y a comme ça des réponses qui se jouent au niveau de, voilà, au niveau de la construction construction de l'image. Ah, alors là, j'ai un petit souci. Voilà, j'ai perdu le micro, mais le voilà à nouveau. Du Rousseau également, que je ne vous ai pas montré, ce mariage de la Vierge, peint en 1524, donc pratiquement au moment où il part pour la France, où on retrouve aussi certains principes, notamment celui comme ça dans le fond de l'ombre généralisée qui permet de faire surgir les formes de manière surnaturelle. C'est quelque chose que Rousseau a étudié chez son maître, Andrea del Sarto. Mais on a dans la représentation des figures quelque chose qui s'éloigne du classicisme, c'est-à-dire que ce ne sont plus des figures sculpturales comme aurait pu le faire del Sarto ou Michel-Ange. On a pratiquement des figures presque désincarnées, comme dissoutes dans la couleur ou plutôt dans la lumière, et on retrouve aussi ce jeu de lignes à la fois brisées et sinueuses qui semble rapprocher donc ces formes du premier plan du tableau. Donc là aussi, on a une manière assez incongrue de travailler le modelé, de travailler la forme. Quand je parle de figure désincarnée et le travail de l'ombre généralisée, je crois que ce détail, le détail de cette œuvre, nous fait apprécier cette maniera qui procède, vous le voyez quand on regarde de très très près, qui procède comme ça par hachures parallèles ou entrecroisées, avec une patte contrastée, et les personnages apparaissent comme des espèces de figures fantomatiques, et il n'y a plus de préoccupation réaliste de l'image. Ce qui compte, c'est l'atmosphère du miracle, de quelque chose de sacré, mais c'est effectivement un nouveau type d'image. Je vous avais montré cette œuvre où Rousseau s'imprégnait totalement là des œuvres à la fois de Raphaël, de Michel-Ange et des antiques. Donc je ne reviens pas sur le Christ mort du Rousseau, mais il faut imaginer que c'est donc dans ce contexte que Rousseau va largement influencer la peinture française. Une fois qu'il travaillera à Fontainebleau, le voilà déjà arrivé à Fontainebleau, voici ce que le type d'image donc réalise Rousseau. C'est une œuvre qui aujourd'hui n'est pas restée en France, mais se trouve aux Offices à Florence. Il s'agit l'image de Moïse en train de défendre les filles de Jéthro. Là encore, une œuvre, enfin, on a là un sujet évidemment qui illustre un épisode de la Bible, je ne sais plus si vous l'avez en tête, mais il s'agissait pour Moïse de châtier, si vous voulez, les bergers qui voulaient empêcher les filles de Jéthro de puiser de l'eau pour leur propre troupeau. Et regardez bien, on a là quelque chose qui n'était pas du tout connu en France, de répertoire d'images, une espèce d'enchevêtrement de corps nus, superposés dans un espace, on se demande comment ils font, c'est vraiment très exigu, pourtant ils font des gestes vraiment d'une très grande violence, ça part dans tous les sens, on a l'impression qu'ils vont faire éclater, là encore, le cadre de l'image, et les formes humaines, ici, si vous voulez, représentées comme idéalement assemblés, hein, il faut toujours obéir à des lois qui sont celles de la composition géométrique, et on a quelque chose qui est en conflit, hein, il y a une image, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit, avec un modelé qui évoque davantage la sculpture, mais qui est comme aplati, un petit peu comme dans l'image précédente, au point, là encore, de devenir quelque chose de presque abstrait. Quant à la psychologie, à l'expression, regardez chacun des visages qui sont pétrifiés d'angoisse, de colère ou de douleur, comme si le peintre, comme si Rousseau avait voulu pousser à l'extrême, donc c'est cette idée d'extrême, si vous voulez, l'expression d'une vie violente, tout en immobilisant l'image, si vous voulez, dans un univers qui reste un univers idéal. C'est cet aller-retour entre image classique et image maniériste. C'est à propos de ce type d'image qu'on peut vraiment parler de manière bizarre, délibérément antinaturelle, bien sûr. Hein, les positions sont quand même assez incongrues et, bien sûr, anti-classique. Et regardez bien cette image-là, parce que cet anti-naturalisme et cet anti-classicisme sont pour moi vraiment les caractéristiques qui vont peser fortement sur le maniérisme français de la seconde génération. Pour moi, ça semble tout à fait évident. Je vais vous montrer maintenant des images. Mais pas seulement sur le maniérisme français, sur aussi une grande partie du maniérisme nordique, d'images que je vous ai déjà présentées précédemment. Rousseau, donc, concourra à l'élaboration du programme de Fontainebleau, et à partir de 1540, eh bien, à ses côtés travaillait le Primatis, et c'est le Primatis qui a été appelé lui aussi en 1532 par François Ier, et qui, après la mort de Rousseau en 1540, eh bien, exercera, on peut pratiquement dire, une dictature sur tous les arts liés à la grande commande de François Ier. Malheureusement, concernant le travail de Primatis, pratiquement toute son œuvre a disparu ou, je dirais, a été mutilée. Et alors, son travail, c'est-à-dire la galerie d'Ulysse à Fontainebleau, la chambre de la duchesse d'Étampes également, on a cependant un nombre incalculable, enfin incalculable, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses dessins, et c'est intéressant aussi de travailler sur ce médium-là. Je vous présente là un très beau dessin qui est conservé au cabinet des estampes des offices, Florence, et qui représente Junon chez le sommeil. En fait, ce dessin-là, c'est un projet pour une peinture qui représentera ce sujet dans le vestibule de la Porte Dorée de Fontainebleau. Le tableau, qui date des années 50, a disparu. Le sujet, eh bien, est tiré évidemment des métamorphoses d'Ovide. Et on y voit quoi ? Eh bien, on y voit Iris, la messagère de Junon, sous l'apparence d'une jeune fille, qui descend de son char pour toucher le sommeil, l'idée du sommeil, à l'épaule. Celui-ci va se relever, hein, c'est pas facile d'ailleurs pour lui de se relever, car il est entouré de ses rêves, des rêves qui prennent différentes formes. Entre autres, on voit pointer sur la gauche le monstre du cauchemar, et on voit également au seuil de sa maison le laité qui verse dans son urne l'oubli, tandis que complètement à l'arrière-plan, vous apercevez Junon sous la forme d'un paon. Hein, il faut regarder bien sûr les images qui sont comme ça. Donc, vous avez la partie de l'urne hein, qui sort de l'oubli, qui sort de l'urne, et à l'image la partie du paon. Donc, il y a un estompage comme ça vers le deuxième plan de ce dessin. Ce dessin est d'une admirable élégance, du mouvement, de la légèreté. La finesse du trait, l'aisance dans l'illustration de la fable. Bon, évidemment, le sujet est plutôt rare et c'est un ton, je trouve, très raffiné. Et ce ton raffiné et mondain marque, selon moi, l'empreinte du maniérisme du côté français, et ça pour un certain temps. Ça démarre à la fin des cycles Rousseau-Primatis et ça durera longtemps, ça durera jusqu'au règne d'Henri IV, et c'est ce qui me semble être la spécificité du travail des Français. Autre peintre italien qui est un des fondateurs également de cette école de Fontainebleau, au même titre que Rousseau et que Primatis, il est né à Modène et il a exercé entre Modène et Bologne. Et puis, il a été appelé en 1552, lui aussi, donc, à Fontainebleau. Il a été le principal collaborateur de Primatis. Il s'appelle Niccolò dell'Abate, A-D-B-A-T-E. Ce qui semble, après avoir étudié ce type de production, c'est que dans l'atelier de Primatis, on confiait à Niccolò dell'Abate essentiellement les fonds de paysages dans ces différents grands ensembles décoratifs. Là, je vous présente un paysage au batteur de blé, hein, conservé donc à Fontainebleau. Et c'est vrai que le travail de Niccolò dell'Abate se distingue vraiment de tous les autres Italiens de cette période parce qu'il y a une importance accordée au paysage qu'on ne retrouve pas chez les Italiens à ce moment-là, mais qu'on trouve davantage chez les Nordiques, notamment dans les lointains bleutés les, ou verdâtres des tableaux. On a quelque chose qui est un peu particulier, qui est peut-être le lien que fait la peinture française entre peinture du Nord et peinture italienne sur l'étape de Fontainebleau, et qui va marquer profondément l'histoire de la représentation du paysage en France, car pour la première fois, on a ici un paysage qui est traité comme sujet principal. Ce n'est qu'un paysage, oui. Et les personnages qui animent ce paysage ne sont absolument pas empruntés à la fable ou à la mythologie. C'est comme s'ils sortaient de la vie réelle. Donc on peut presque considérer ce tableau comme une scène de genre, comme tentant l'aventure de la scène de genre. Vous apercevez au premier plan des paysans qui sont coiffés d'un grand chapeau, qui sont en train de retourner la paille avec des fourches. Vous avez vraiment le travail au quotidien avec le couple élégamment vêtu au centre et qui surveille les travaux. Donc on a un choix qui est assez étonnant, un choix très réaliste, mais au-delà des personnages très réalistes, le tableau porte quand même l'empreinte du maniérisme. Les personnages, si vous regardez bien, sont extrêmement stylisés. Ils ont la souplesse et l'allongement du canon des personnages de Fontainebleau, le caractère un peu aussi au deuxième plan irréel du paysage, des montagnes, qu'on retrouve d'ailleurs d'une peinture vers une autre peinture, correspond à un schéma traditionnel qui est pratiquement celui inventé, je dirais, par Patinir au début du XVIe siècle. Donc ça, c'est quelque chose qui répond, je dirais, à un contexte un petit peu international. Mais la composition est assez intéressante. Il y a notamment tout le mouvement dans la composition, le geste des travailleurs aussi, qui sont dans la partie droite de l'image, ici ou là, qui se répondent, qui sont employés vers la terre, ou au contraire, est-ce qu'ils sentent une petite danse? Je pense qu'il faut attendre Millet pour trouver à nouveau ce sentiment d'union entre le paysan et la terre, exprimé par le geste. Mais on a une image, on a la maniera toutefois, aussi à cause de la couleur, de cette harmonie colorée qui donne à l'image quelque chose que je trouve assez décoratif. Et en cela, ce n'est pas Millet évidemment, ça rompt avec le réalisme du sujet. Oui, il y a réalisme du sujet, mais après, dans le traitement de la forme, le traitement de la couleur, c'est un traitement maniéré, c'est un traitement avec la manière. Également, un élève d'Andrea del Sarto, qui se rendra en France aussi dans les années 50, qui exécutera des décorations au château d'Ampierre pour le cardinal de Lorraine. Il s'agit de Francesco Salviati. Salviati, dont je vous présente là une œuvre faite justement pour d'Ampierre, mais qui est aujourd'hui aux Offices, c'est la représentation de la charité. La charité, perçue comme une puissante matrone à la poitrine découverte, agenouillée au milieu d'enfants, plusieurs enfants nus. Et on a une composition, là encore, très dense, des personnages occupant presque tout l'espace du tableau. Et en même temps, il y a ce jeu de courbes et de contre-courbes qui donne du mouvement au tableau, qui obéissent à cette loi très chère à Vasari, hein, rappelez-vous, on l'avait nommé, la forme serpentine. Voilà, donc en cela, on est sur une image maniériste. Il y a quand même une puissance sculpturale du modelé, qu'on n'a pas dans toutes les images maniérées, un traitement très large des formes, qui tempère des éléments plus élégants, plus décoratifs, notamment l'élégance comme ça du profil qui se retrouve là également, la coiffure extrêmement ouvragée, donc anti-naturelle, et puis le graphisme très délicat aussi des mains qui sont des éléments de décor maniériste. Et donc on a là toujours un style monumental, mais avec des ambitions décoratives. Il y a ce lien entre Michel-Ange et Raphaël, dont on a cessé de parler, entre la Venustas et la Terribilita, et ce type d'alliance pour un sujet qui est caractéristique, bien sûr, des débuts de la contre-réforme, que ce soit en France ou ailleurs, avec une allégorie chrétienne, celle de la charité, qui est au service de la foi, et qui est une glorification, bien sûr, en même temps, de la vertu théologale, avec cette idée préconisée par le Concile de Trente d'utiliser la peinture pour convaincre, et le faire donc avec éloquence et avec un répertoire décoratif qui peut être complètement naturaliste ou qui peut être anti-naturaliste, ça dépend du répertoire d'images. Alors, je reviens à cette œuvre qui a été commandée en direct par François Ier à Benvenuto Cellini. C'est cette fameuse, cette fameuse nymphe de Fontainebleau au corps longiligne. Donc on retrouve un répertoire d'images maniéristes. L'ambiguïté exaltée par la proximité des animaux de la forêt, vous identifiez au moins sanglier, chevreuil en demi-relief autour d'elle, des lièvres également, utilisés pour chasser ce gibier. Mais ce qui domine la composition, c'est bien sûr la figure du cerf, car c'est ce qu'écrit Cellini. Vous savez qu'il est il a beaucoup écrit, hein, Cellini. Il a écrit notamment sa vie, une autobiographie. Il écrit à propos du cerf que c'était l'animal qui comptait parmi les emblèmes du roi. D'où la réalisation de cet animal dans le projet du roi. Il faut savoir que cette nymphe ne prendra jamais place sur la porte dorée, qu'elle sera placée au contraire à l'entrée du château d'Anet, offert par Henri II, vous le savez, à sa favorite, donc Diane de Poitiers. En tout cas, ce relief est assez intéressant, l'utilisation de la demi-lune, enfin l'adaptation, je dirais, au contexte, et aussi l'adaptation, je dirais, à l'iconographie, puisque cette nymphe, évidemment, évoque la légende à l'origine du nom de Fontainebleau, selon laquelle la source et sa divinité tutélaire ont été découvertes par un chien de chasse qui s'appelait Bleu ou Bliot. Le lieu dit a donc pris le nom de Fontaine Bliot, Fontaine Bleu, Fontaine Bleu. Évidemment, ensuite, ce relief va devenir un bronze et en devenant un bronze, il y a tout le travail extrêmement complexe là de l'artiste qui se met en place. Donc il y a l'emblème du grand cerf, on l'a dit, l'emblème, un des emblèmes, outre la salamandre, grand emblème de François Ier, et puis cette image magnifique de la posture de la nymphe qui s'adapte au cadre du fronton, à la manière des reliefs de l'Antiquité, mais qui est idéalisée. Elle est idéalisée et en cela, elle suit les canons de beauté des peintres de Fontainebleau, mais avec une virtuosité certaine dans les liaisons pas faciles à faire en bronze, les liaisons entre les différentes parties pour donner plus de souplesse, plus de naturel à cette image. On sait tout, hein, sur le travail de la nymphe, parce que je vous renvoie, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à la lecture de la vie, l'autobiographie de Cellini. C'est absolument extraordinaire, puisque on connaît pratiquement tout son travail en tant que technicien et en tant que, je dirais, que plasticien. Et il raconte comment, pour rendre le plus possible le naturalisme de cette œuvre, s'est servi de deux jeunes modèles, deux jeunes femmes, qui sont devenues deux divinités, une certaine Catherine, une certaine Jeanne. Alors après, il y a toutes les élucubrations pour savoir ce qui s'est joué entre Catherine, Jeanne et Benvenuto. Bon, ça, c'est la petite histoire. Évidemment, il y a aussi une autre commande qui est importante à ce moment-là, à la cour de Fontainebleau, commande aussi de François Ier. C'est cette magnifique pièce d'orfèvrerie, la fameuse Salière, qui aujourd'hui est conservée au Kunsthistorisches de Vienne, et qui, évidemment, agit comme représentation de la gloire du souverain, de la gloire de François Ier, Salière qui va opposer la vigueur toute maniériste. On le voit ici, la figure torsadée comme ça, donc la figure maniériste de Neptune, la figure d'Amphitrite qui lui fait face. Vous avez en tête évidemment les différents reliefs de Michel-Ange réalisés quelques années auparavant pour notamment la bibliothèque laurentienne. Donc l'opposition des différents contrapposteaux, le répertoire également mythologique, absolument extraordinaire. Je passe évidemment sur la quantité de pierres précieuses Je m'intéressais là simplement à l'analogie avec des charmes gracieux et fluides de ces deux corps et qui me semble fonder aussi le répertoire. Hein. Vous avez en tête bien sûr aussi les Ignudi de la Sixtine. Donc ce qui me semble fonder, je disais, le répertoire maniériste à Fontainebleau et pas seulement à Fontainebleau, différents espaces colonisés par les Italiens de France. Enfin, une dernière œuvre, une dernière commande faite par François Ier auprès de Cellini. C'était celle de 12 statues d'argent qui auraient représenté les dieux de l'Olympe et dont François Ier voulait faire en fait des porte-flambeaux qu'il aurait disposé autour de sa table à l'occasion de grands repas. Donc en fait, si on en croit toujours la vie de Cellini, le Jupiter, a été réalisé, mais le Junon que je ne peux vous montrer du Junon que ce dessin, et la statue de Junon ne sera pas réalisée, dans un style, là encore, extrêmement romain. Regardez l'utilisation du bras démesurément long de la Junon et qui forme une espèce de vrille extrêmement codifiée dans le vocabulaire de cette époque. Alors, ces figures de femmes extrêmement élégantes, extrêmement ornementales, retravaillées cet effet d'ornementation sur territoire français, on peut en voir évidemment des traces dans la prolongation des grandes commandes de François Ier plus tard pour décorer le château de Danay que notre roi Henri II fait construire pour sa maîtresse Diane de Poitiers, confiant la construction du bâtiment à Philibert Delorme et faisant tisser toute une série de tapisseries dont les cartons ont été donnés par différents artistes de cette école de Fontainebleau et dont le thème est lié à l'histoire, évidemment, l'histoire de Diane. Alors ça, c'est assez intéressant. Donc il y a toute une série d'évocations sur le thème de Diane, évocations et exaltations, si vous voulez, de la nudité féminine. Général. Peut-être que l'image la plus célèbre, c'est celle-là, dans la galerie de son château, Diane de Poitiers fait accrocher toute une série de toiles où elle figure en chasseresse avec le nu de la Diane des anciens, car évidemment, la Diane antique est le symbole de la femme forte, habile à capturer ses proies. Elle a donc un certain, je dirais, côté viril. C'est la virago dont les romans comme le Roland furieux de Larios diffusent la mode également. Mais c'est aussi, Diane, c'est aussi la lune, Sémélée, Sélène, amoureuse du mortel Endymion, et donc douée, bien sûr, d'une sensualité féminine. Que va lui conférer la fréquentation de paysages toujours au naturel, des paysages naturels pleins de sève, qui sont, des forêts, des champs, et c'est donc toujours dans ce type de décor qu'elle est représentée. Et cette double nature de la femme, de Diane, convient évidemment tout à fait à la redoutable, la réelle Diane de Poitiers, qui s'est permis, rappelez-vous, de refuser les avances de François Ier pour mieux s'assurer le contrôle de son fils Henri II et pour mieux agir sur sa politique en s'opposant aux intrigues de la très légitime Catherine de Médicis. Donc voilà un petit peu le type de portrait. Donc vous voyez là, je ne reviens pas sur le style, mais toute l'influence de ce premier style maniériste sur la peinture, sur la peinture française, ce qui, dans le canon même, dans les proportions de ce personnage, l'esprit de Fontainebleau, c'est quoi? C'est un corps démesurément long, très élancé, beaucoup plus élancé que la réalité, de très longues jambes, des petits seins haut placés, tout ça, ça révèle l'influence du canon maniériste importé par Rousseau et Primatis une vingtaine, trentaine d'années auparavant, mais en même temps ce n'est pas un nu conventionnel puisque c'est un portrait qui se veut un portrait réaliste. Je vous montre également ce type d'image. Alors après, il y a tout un répertoire, elles sont très très nombreuses, ces images. Beaucoup sont évidemment conservées au musée du Louvre. Donc rapport évidemment, contexte ou excuse qui permet de dévoiler la nudité de Diane ou bien la nudité, la nudité de Vénus. Et donc apparaît évidemment de manière beaucoup plus importante en France qu'en Italie les fameuses Diane au bain ou Vénus au bain, Diane à sa toilette, Vénus faisant sa toilette, un petit peu sur le modèle très théâtralisant, où là encore, je pense que c'est assez clair et visible, le répertoire du modelé et de la forme siloueuse et enveloppée comme ça, double croche pour celle-ci, donc un répertoire complètement maniériste. C'est pas toujours d'ailleurs évident de réaliser ces différents portraits de femmes nues, de nudité. Et je rappellerai à cet effet que justement pour contrarier l'effet de nudité, que dans un autre tableau de François Clouet, qui a été peint en 1572, on voit bien que les légitimes n'ont pas droit, elles, au prétexte mythologique susceptible de suggérer, de célébrer leur talent érotique, et elles vont toujours se cantonner dans le portrait officiel. Et ici, vous aurez reconnu le portrait d'Élisabeth d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien II, hein, la sœur du futur Rodolphe II, puisqu'il faut faire des liens cette année. Elle vient d'épouser le roi de France Charles IX. Ça n'a pas duré longtemps. Hein, 3 ans plus tard, elle est déjà veuve. Vous voyez que c'est un portrait maniériste, gracieux, impénétrable, une science de la minutie dans le rendu des soies, des brocarts, des voiles, des cabochons, qui semblent vraiment... on a vraiment l'impression que c'est comme un carcan, ce vêtement qu'elle porte. Et quel contraste avec ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire avec la grande liberté des favorites, hein, l'exaltation de la nudité féminine, ne passe pas forcément par un portrait précis, alors que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus aussi... bien sûr, il faut indiquer le rang social de la légitime. Donc je mettrai un petit peu en contraste ce double type de portrait, la légitime et l'illégitime. Encore une femme nue, typique de cette école de Fontainebleau, c'est la Eva Prima Pandora de Jean Cousin, réalisée en 1550, magnifique peinture conservée au Louvre. Rappelez-vous que selon la mythologie, la figure de Pandore a été façonnée par Héphaïstos, qu'elle a été envoyée sur terre par Zeus pour séduire les hommes et les conduire à leur perte afin de les punir de leurs prétentions. Et cette jeune femme, dans la mythologie, elle est chargée de veiller sur le pitos que vous apercevez là. Le pitos, c'est-à-dire cette urne funéraire dans laquelle ont été enfermés tous les maux, mais elle ne pourra pas résister à la curiosité, elle va ouvrir le pitos et elle va laisser tous les maux se répandre sur la terre. Seule l'espérance demeurera au fond de l'urne et Pandore, dans l'histoire de l'art, a donc été logiquement identifié à Ève dans l'histoire de l'art et la référence, bien sûr, à l'Église catholique. Et donc, on la représente nue, dans une grotte. La main gauche, elle est posée sur le pitos. L'autre est appuyée sur un crâne. Et vous pouvez remarquer cette chose absolument extraordinaire, que la grotte, la grotte elle-même, elle est conçue comme un crâne gigantesque dont les deux orbites s'ouvrent sur l'extérieur. Il y a enfin ce vase au deuxième plan, ce deuxième vase qui est posé sur une pierre carrée, c'est-à-dire taillée de main d'homme. Et au bout, dans le deuxième plan, c'est difficile de distinguer ça, mais là c'est toujours le rapport à la représentation du paysage façon patinir. On aperçoit une cité, mais on ne peut pas véritablement comprendre de quelle cité il s'agit. De ce répertoire d'images, vous voyez que l'élégance va au-delà de l'élégance. On est vraiment dans une image extrêmement maniérée, donc extrêmement codifiée, extrêmement symbolique. On est toujours dans le même contexte de la peinture de l'école, donc de l'école de Fontainebleau, pour une représentation, donc aujourd'hui, enfin depuis les années 30, achetée par le Louvre, conservée au Louvre. À une époque, dans les années 10, les années 20, on nous parlait de Diane de Poitiers, donc notre favorite d'Henri II. On nous a parlé aussi de la maîtresse de Charles IX. On sait aujourd'hui qu'il s'agit bien de Gabrielle d'Estrée Aubin. Et donc, Gabrielle d'Estrée, bien sûr, là, nous sommes sur l'illégitime d'Henri IV, le quatrième. Il y a toute une série de peintures de ce type, dans lesquelles, eh bien, il y a des portraits anonymes figurant Aubin. Certains ont été identifiés comme étant Gabrielle d'Estrée. Sur celui-ci, nous avons bien Gabrielle avec sa sœur cadette, Julienne d'Estrée, qui était duchesse de Villars. Et dans cette baignoire, ensemble, elles abordent une position qui est assez marrante, enfin assez peu courante, puisque Gabrielle, vous le voyez, tient une bague qui symbolise le couple qu'elle forme depuis pas si longtemps avec Henri IV, et Julienne, elle, a posé ses deux doigts sur la pointe du sein de sa sœur, soulignant le fait que Gabrielle est enceinte de son royal amant et que l'enfant est en train de grandir en son sein, et que cette partie de son corps fournira bientôt du lait. Et effectivement, naîtra un petit César de Bourbon-Vendôme quelques mois après. Alors, le décor, évidemment, la fixité des regards, alors là, il n'y a plus aucune nuance psychologique. On parlait d'antinaturalisme tout à l'heure, le côté, enfin, l'aspect lisse de porcelaine de ces deux corps, les mains extrêmement raffinées. Hein, on est vraiment dans des codes de la maniera, un tic pour nous dire c'est pas vraiment la réalité, mais c'est quand même la réalité, l'aspect théâtral. Et quelque chose d'intéressant quand même à propos de ces Français, ce maniérisme français, l'apport aussi de la connaissance de la peinture d'Europe du Nord, donc à travers ce deuxième plan laissé dans l'ombre, comme dans la peinture flamande, où vous apercevez non seulement la même personne habillée, mais qui est en train presque d'allaiter le futur bébé, et puis référence à la fonction aussi de cette jeune femme, puisque là on la voit en tant que courtisane. Elle apparaît ici, les jambes nues, un nu en fait, les jambes écartées, donc c'est l'image dans l'image, donc codifiant un peu le statut d'illégitime de cette jeune femme dans la peinture de la Renaissance en France. Alors, il est aussi m'éloignant de ces nus, parce que trop de nus quand même, mais regardant des peintres qui ont officié aussi entre dans une carrière oscillant à la suite de Primatis, Niccolo della Batte, parmi donc les peintres français employés à Fontainebleau, il y a celui qui est peut-être le mieux connu aujourd'hui dans l'histoire de l'art, c'est Antoine Caron. Antoine Caron, dont on a peut-être du mal à se rendre compte aujourd'hui l'importance, enfin le succès qu'ont connu ses peintures, surtout pour le traitement très stylisé des personnages, et puis l'emploi d'architecture fantastique. Ces architectures semblent être la réalité, oui, c'est un montage de vocabulaire comme ça de l'antique, mais en fait, elles ne représentent aucun bâtiment connu. Et donc, les tableaux de Caron ont été prisés comme les tableaux des Italiens, et finalement, il est entré au service, Antoine Caron, de Catherine de Médicis. Il était extrêmement estimé dans l'entourage royal, et il a été chargé surtout d'exécuter des décorations pour les fêtes, les entrées triomphales. Et c'est vrai que là, je vous montre un tableau de chevalet, mais qui montre bien ce qu'on aimait, c'est-à-dire un esprit littéraire connaissant très bien ses allégories, plein d'allusions subtiles, et qui, ça marchait bien à ce moment-là. Alors, celui-là, on ne va peut-être pas rester trop longtemps, vous avez identifié ce qui permettait d'inscrire des éléments de la romanité, c'est l'histoire de la Sibylle de Tibur, qui vient annoncer à Auguste la naissance d'un autre Auguste, là dans le ciel, donc on connaît cette histoire. Un petit peu dans la même veine également, ce tableau de Caron, donc là aussi, vous voyez que c'est un prétexte pour loger toute une série d'architectures extrêmement complexes, complètement inventées, complètement maniérées, avec des colonnes torses, avec des choses incroyables. Non, il ne faut plus la toucher, là, je crois, l'image. Et puis au centre, donc, le tableau représentant des astronomes en train d'étudier une éclipse. Se rapportant là à un moment très précis de l'histoire, qui est une éclipse de soleil qui s'est produite à Paris en janvier 1571. Et donc les personnages principaux, ce sont des astronomes astrologues suivis d'une petite escorte qui se tiennent sur une sorte de podium et on est vraiment comme si on était dans une représentation théâtrale. Et il y en a un qui désigne du doigt le soleil qui est en train de rougir dans ce ciel enflammé. Et puis, à l'arrière, des gens qui contemplent le ciel et qui sont complètement épouvantés. Donc, c'est intéressant parce que ce type d'image témoigne d'abord de l'intérêt que la cour, et en particulier Catherine de Médicis, portait à l'astronomie et à l'astrologie. Elle n'est pas la seule. On a vu ça aussi déjà chez Rodolphe à Prague. Et en fait, ces scientifiques ou pseudo-scientifiques ne faisaient que refléter l'intérêt que leur époque manifestait pour ces sciences quand même qui prennent leur essor. Je pense notamment à la figure de Copernic. Et il se peut très bien que dans cette image-là, en plus, il y ait une allusion à l'état d'esprit des catholiques dans les mois qui vont quand même précéder, je le rappelle, la Saint-Barthélemy. Les catholiques considérant cette éclipse comme un signe de la colère divine contre les mesures de conciliation que le roi venait de prendre en faveur des protestants. Alors, quelle que soit sa signification historique, c'est quand même une œuvre comme la précédente qui est tout à fait étrange et tout à fait, de la manière, si vous voulez, de Caron, avec des groupes juxtaposés qui s'intègrent à une architecture, un petit peu comme les strophes d'un sonnet, si vous voulez. C'est Il y a des figures qui sont empruntées à l'art italien, et puis l'ensemble, quand même, reste très français, par ce souci toujours d'élégance, que ce soit l'architecture, que ce soit tous les détails, et ce détachement presque apparent de la réalité quotidienne. On a là un art de cour où, finalement, l'artificiel est promu au rang de valeur, mais ça va beaucoup plus loin que ne l'ont fait les Italiens ou les Allemands à la même époque. Je montrerai un dernier tableau de Caron qui me semble aller tout à fait dans ce sens. Donc il y a bien une histoire antique, ça s'appelle le massacre du Triumvirat, donc c'est censé se passer dans l'Antiquité, mais vous voyez qu'on se fiche et contrefiche bien de l'histoire, je crois qu'il ne faut plus toucher là, voilà, on se fiche et contrefiche de l'histoire, c'est l'artificiel dont je parlais, avec une intensité surréaliste, avec un répertoire d'images qui fonctionne un petit peu, si vous voulez, pour amuser la galerie et pour dire « Ouh là là, mais c'est absolument incroyable, cette pléthore d'images architecturales qui sont… » Oui, effectivement, ça pourrait être le Palazzo Vecchio, oui, ça pourrait être le Colisée, vu comme ça en coupe cavalière. Oui, ça pourrait presque être le dessin de la place du Capitole, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas un petit peu comme si on était au théâtre. Et pour nous, c'est peut-être plus difficile de lire ces images aujourd'hui. Ça avait énormément de succès à la cour française à la fin du XVIe siècle. Je vous montre maintenant une image d'un autre représentant de cette deuxième école de Fontainebleau. Il s'agit de Toussaint Dubreuil. Voilà, Toussaint Dubreuil, qui a été formé bien sûr à Fontainebleau et qui est devenu à la fin du XVIe siècle premier peintre du roi. Il va jusqu'à la mort du roi, jusqu'en 1602. Et il va travailler à Fontainebleau, à la petite galerie du Louvre également, à Saint-Germain-en-Laye. Et là, j'ai pris une peinture qui provient du château neuf de Saint-Germain-en-Laye. Ça s'appelle le Sacrifice antique. Et c'est un peu difficile d'identifier de quel sacrifice il s'agit. Peut-être on peut y voir l'apparition de Diane en haut de l'image au moment du sacrifice d'Iphigénie. En tout cas, ce n'est pas un épisode d'un roman grec de l'époque qui racontait cette histoire, comme on l'a cru pendant longtemps, hein, le Théagène et Cariclé. C'est un peu difficile de percer l'iconographie de ce tableau. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était au niveau du style. Encore là, une composition rythmée par l'architecture, qui imprime donc une allure assez noble à l'ensemble, un dessin extrêmement savant, une facture très très savante, et on est encore dans un coloris qui est un coloris maniériste, hein. Je parle toujours de mes petits bonbons acidulés, ça me semble assez évident, le manque de naturalisme, peu importe les visages, c'est pas ça qui est important, c'est comment les formes s'agencent entre elles, les silhouettages aussi presque fantomatiques au deuxième plan. Voilà des éléments de maniérisme que nous avons déjà rencontrés et que l'on retrouve chez ce Français, donc chez Toussaint Dubreuil, qui est un peintre extrêmement intéressant de cette période. Il faut savoir que pour la France, je dirais que le maniérisme a touché pratiquement... Le maniérisme de l'école de Fontainebleau a touché pratiquement toutes les disciplines. Et j'ai voulu donc terminer par des disciplines un peu différentes. C'est pour ça que j'ai apporté ce relief de bronze de Germain Pilon, qui se rattache vraiment pour moi au travail de l'école de Fontainebleau. D'abord parce qu'il a travaillé avec Primatis, et puis donc il a été chargé par Catherine de Médicis d'exécuter la statuaire de la Rotonde des Valois à Saint-Denis, pour laquelle Primatis avait donné des plans que je ne peux pas vous montrer. Alors, bien sûr, il y a ce qui me semblait maniériste dans ce bronze, c'était là encore le goût du mouvement, les formes allongées. Mais en même temps, il reste français. Il y a, je trouve, il est entre les maîtres gothiques et le maniérisme. Il reste quand même l'interprète d'un sentiment religieux qui est quand même, bon, qui est pathétique, mais qui est profondément, oui, qui est peut-être plus lié au gothique finalement qu'au maniérisme. Et c'est, vous l'avez reconnu, donc une descente de croix. Le thème étant repris de celui des mises au tombeau du XVe siècle, mais on a un bas-relief en bronze, on n'est plus dans un rond-bosse, et ce qui est merveilleux, c'est vraiment la maîtrise de l'espace, la suggestion comme ça des différents plans, hein. On est sur pourtant un très très court relief, des reliefs comme ça de plus en plus faibles qui s'estompent à l'arrière, et une élégance des gestes, un traitement très très fluide aussi des draperies. Donc on a une œuvre issue du maniérisme, mais adaptée évidemment à une technique qui est une technique tout à fait particulière. Également, dans cette technique qui est vraiment la technique, je dirais, des Français, c'est-à-dire l'histoire de la tapisserie, hein, au XVIe siècle en France, qui est très liée à la grande peinture, puisque ce sont les Caron, Antoine Caron, Toussaint Dubreuil, que je viens de vous montrer, qui ont fourni les grands cartons aux lissiers. Et donc, il y a beaucoup de suites célèbres, je pense aux Actes des Apôtres de Raphaël, qui ont été reproduites plein de fois en France. Et puis, il y a eu des choses un peu novatrices, considérant que la France est restée au XVIe siècle, comme au XIVe, comme au XVe siècle, un pays de la tapisserie, qu'Henri IV a essayé de redonner de la vigueur à cette industrie nationale. Il a fondé la Manufacture du Louvre, rappelez-vous, en 1597, et qu'il a créé également, dans la première décennie, les ateliers du Faubourg Saint-Marcel. Et c'est pour ces ateliers du Faubourg Saint-Marcel, ou à travers ces ateliers du Faubourg Saint-Marcel, qu'a été réalisé ce fameux colosse de Rhodes, qui appartient à une suite consacrée à l'histoire d'Artémis, qui a été d'ailleurs tissée plusieurs fois. L'illustration a été donnée par Antoine Caron, ici, et on voit eh bien, notre colosse de Rhodes, jambes écartées, hein, figure maniériste, on ne peut plus maniériste, qui est en train de garder l'entrée du port. Vous voyez à l'arrière les galères de la reine Artémis qui pénètrent grâce à une ruse. Les vaisseaux que vous voyez décorés de lauriers laissent croire aux habitants qu'il s'agit d'amis. Donc il y a tout ce jeu comme ça pour laisser rentrer les bateaux. Et la tête du colosse, cette trouvaille de la tête du colosse qui rejoint, vous le voyez en haut, le cartouche central aux armes de France et de Navarre. Et cette somptueuse bordure de la tapisserie ornée de guirlandes et d'amour qui ajoute au caractère décoratif de cette pièce. On avait déjà parlé de ça, du décor dans le décor, hein, du sujet dans le sujet, à propos des fausses tapisseries réalisées donc, au Palazzo Vecchio. On retrouve évidemment des éléments décoratifs propres à ce monde-là. Et puis je terminerai avec une dernière image pour retourner finalement à ce thème qui a tellement plu aux maniéristes français, le thème du nu, à travers une technique un peu particulière, mais qui est propre aussi à un espace français. Nous sommes sur un émail qui est peint sur cuivre, qui a été réalisé à Limoges. Je rappelle que Limoges, depuis le Moyen-Âge, est restée la capitale de l'émaillerie, que la technique de l'émaillerie a subi évidemment des transformations assez importantes au XVIe siècle, et qu'il y a là encore toute une série de dynasties d'émailleurs, notamment la dynastie des Limousins, ici il s'agit de Léonard Limousin, qui ont travaillé à Limoges, à Paris, où ils sont devenus émailleurs de la cour d'ailleurs, et qui ont travaillé à partir de cartons donnés toujours par les gens de Fontainebleau pour illustrer ici une scène de Vénus. Vénus et l'amour, où le visage de la Vénus, d'ailleurs, est assez proche des portraits. Je vous ai montré tout à l'heure, portrait de Clouet. Ou bien, il y a un autre protagoniste dont je n'ai pas pu avoir d'image aujourd'hui, qui était ce portraitiste Corneille de Lyon aussi, qui travaille un petit peu de cette manière. Et vous retrouvez la déesse nue, couchée, avec un petit amour hein, qui lui susurre quelques mots à l'oreille, qui a posé à ses pieds le carquois de flèches, avec dans le fond un panier de fleurs et un paysage, la ville fortifiée. La gamme des couleurs est absolument extraordinaire, avec les rayons d'or aussi, la transparence argentée qui donne à l'émail une note précieuse. Mais dans la morphologie hein, des personnages, et notamment de la Vénus, on retrouve la figure vraiment de la forme en fort, la ligne serpentine qui était propre donc au discours antinaturalisant des maniéristes. Donc on peut voir là en conclusion que l'approche maniériste des Français est une approche qui consacre le décor, qui consacre vraiment la question de l'élégance, qui se détourne totalement du naturalisme au profit d'une élégance décorative qui est poussée, à mon sens, beaucoup plus loin que l'ensemble des peintres de cette période sur d'autres régions que nous avons pu étudier cette année. Voilà, je regrette de ne pas avoir pu montrer les plans de la galerie de Fontainebleau avec les différents projets de Rosso. Je n'ai malheureusement pas pu avoir ces images pour aujourd'hui. Je pense quand même avoir essayé de mettre en valeur les caractéristiques un peu particulières de ce type de décor sur la France, en sachant que les maniéristes italiens de la première génération, Rosso, Primatis, Salviati, ont donné naissance à une deuxième école sur la deuxième moitié du XVIe siècle qui a montré là, à travers des techniques, des disciplines différentes, toute son originalité, tout en s'insérant quand même dans un discours de la morphologie maniériste dans son sens le plus large, un art, si vous voulez, édulcoré, un art qui a perdu du réalisme et du vérisme profond qui était la grande conquête du XVe siècle. Voilà, je vais clore ce cours aujourd'hui sur la Renaissance et vous donner donc rendez-vous l'année prochaine. On débutera un autre cycle lié aux différents baroques de l'Europe centrale pratiquement jusqu'au baroque ibérique et au monde ibérique, c'est-à-dire allant voir du côté du Mexique et du Portugal également, du côté du Brésil. Donc on change de période l'année prochaine et on s'éloignera un petit peu de l'Europe également. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'année.